Ok. Eh ben, je vais attaquer. Donc, je me présente. Je m'appelle Pierre-Yves Gosset. Je suis membre et permanent de l'association qui s'appelle Framasoft. Je parlerai éventuellement de Framasoft plutôt à la fin, vu que ma conf est assez dense et que j'ai beaucoup de choses dont je voudrais vous parler. Je voulais surtout vous parler donc d'une campagne qu'on a lancée début octobre et qui s'appelle Dégooglisons Internet et qui est un projet dont j'avais déjà parlé aux Rencontres mondiales du logiciel libre qui avait lieu à Montpellier cet été et qui a été monté en fait cet été, donc quelque chose qui a été monté relativement rapidement et qui vise un petit peu à sensibiliser les gens autour de quels sont les problèmes que pose Google. Et pas seulement Google, et de qu'est-ce qu'on peut faire, nous, personnes qui utilisons, développons ou promouvons le logiciel libre, pour lutter contre tout ça. Donc avant, un petit historique, très rapide, parce que je vais pas m'étendre dessus, mais c'est pour que vous ayez bien une vue d'ensemble de ce qu'est Google. Je vais pas taper uniquement sur Google, même si ça fait toujours plaisir, mais Google est vraiment pour nous un exemple emblématique d'un danger non seulement pour le logiciel libre, mais pour la société en général, d'un danger potentiel, hein. Je dis pas qu'aujourd'hui ils sont dangereux, mais ils peuvent le devenir. Google a commencé, voilà, on est en décembre 98, apparaît ce nouveau moteur de recherche sur Internet, qui aujourd'hui répond à environ 45 000 recherches par seconde. Donc pour les techniciens dans la salle, il faut se dire que 45 000 requêtes secondes, ça commence à être pas mal, évidemment 24 sur 24. Voilà, donc un simple moteur de recherche. Plus tard, Google se développe, Google lance d'autres produits que je vais un peu lister, hein, c'est un peu un inventaire à la Prévert. Google Mail représente aujourd'hui, alors les derniers chiffres officiels que j'ai trouvés datent un peu, mais c'était 500 millions de comptes. Je pense que sans trop se voiler la face, aujourd'hui, on peut dire qu'on est entre 500 et 1 milliard de comptes Gmail créés. Ça ne veut pas dire 500, 1 milliard de comptes Gmail actifs, mais ça veut dire que potentiellement, Google peut répondre à la demande en email de quasiment la moitié des internautes sur la planète. Autre service Gmail très utilisé et de plus en plus connu, Google Drive, qui est un peu l'équivalent de Dropbox, ou d'autres services privateurs. Et qui permet d'utiliser comme ça des applications en ligne, donc tableur en ligne, rédaction en ligne, etc. Je continue. Google Agenda, aujourd'hui donc une solution d'agenda très pratique pour partager à plusieurs des choses sur des événements qu'on va avoir en ligne. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, bon, je pense que dans la salle, pour la plupart vous le savez, mais que YouTube appartient à Google. YouTube aujourd'hui, c'est 1 milliard de visiteurs uniques par mois, et c'est environ 100 heures de vidéos uploadées par minute. Donc 100 heures par minute, ça veut dire que chaque minute, là je vais faire une heure de conf, vous imaginez le nombre d'heures de vidéos qui ont été uploadées sur YouTube. Et aujourd'hui, YouTube est le principal média mondial, puisqu'il diffuse près de 6 milliards d'heures chaque mois. Pardon, j'ai entendu une question. Enfin bon, je prendrai les questions à la fin, mais n'hésitez pas si vous voulez m'interrompre. Voilà, donc aujourd'hui YouTube est en train de devenir le principal média mondial devant la télévision. Ce que les gens savent un petit peu moins, et là on sort un petit peu du domaine affiché classique de Google, c'est par exemple Google Analytics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google Analytics représente, si je lis bien mon petit graphe, environ 70% des outils statistiques gérés sur je crois que c'était le top 10 000 des plus gros sites du web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez sur le site, par exemple, du Monde ou, je sais pas, sur un site marchand, il y a de très très fortes chances pour que ce site web utilise un outil de statistique qui n'est pas le sien, mais qui est celui de Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google récupère des informations sur vous, sur des sites qui n'appartiennent pas à Google. Comment Google gagne de l'argent? Ben, ils vendent de la pub, tout simplement. Ils collectent de l'information et ils vendent de la publicité en affinant les profils des utilisateurs et des visiteurs, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi aussi d'ailleurs. C'est la principale source de revenus aujourd'hui de Google. Google fait des choses aussi qu'on ne voit pas lorsque vous allez sur des sites et que y a par exemple du JavaScript dedans, donc du code JavaScript inclus dans le site. Il arrive assez régulièrement que les bibliothèques JavaScript, donc par exemple jQuery, soient chargées depuis Google. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, développeurs de sites web, parfois on fait les feignants, plutôt que d'inclure le code JavaScript de jQuery sur notre propre site, on va chercher celui de Google. Le problème que ça pose, c'est que quand vous visitez un site, les infos sont envoyées à Google et Google sait que vous avez visité tel ou tel site. Google Groups, c'est un outil extrêmement aussi pratique et plutôt efficace pour gérer des listes de diffusion. Moi qui travaille dans le milieu associatif, je peux vous dire qu'il y a énormément d'associations qui utilisent Google Groups. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces associations deviennent évidemment dépendantes d'outils de Google pour communiquer entre leurs membres, etc. Google Talk et Google Hangout sont les équivalents, on va dire, de Skype et de d'IRC, enfin du chat, pour le grand public au sein des outils de Google. Mais c'est pas tout. Comme dit la pub, c'est pas fini. Il y a plein d'autres services que vous ne connaissez pas forcément, que vous n'utilisez pas forcément, comme Google Scholar pour les contenus pédagogiques. Google Maps, tout le monde connaît. Heureusement qu'il y a OpenStreetMap en face, sans ça on serait quand même un peu mal barré. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres types d'outils, notamment autour des réseaux sociaux avec Google+, qui permettent d'héberger des applications en ligne, qui existent et que Google développe et qui dépassent largement le cadre évidemment du moteur de recherche et des applications Google Apps, Google Drive. Google évidemment ne s'est pas arrêté là. Google est présent aujourd'hui dans, je crois que c'est à peu près 6 ou 7 smartphones vendus dans le monde. Je veux dire que avec Android, Google est présent dans... Tiens, je vais faire le test. Combien parmi vous ont un téléphone avec du Android dedans ? Reconnaissez, c'est flippant. C'est Android, et aujourd'hui, à la louche, là, on doit être à peu près à 60%. Donc c'est bien, ça correspond aux stats nationales. Est-ce que j'ose troller combien ont des iPhones ? Il lève la main plus petit, mais il y en a quasiment pas. Mais bon, là, on est sur une population un peu particulière. Et combien ont des OS libres, que ça soit Firefox OS, Replicant, voilà. Donc là, on explose carrément les stats nationales. Hein, je ne cache pas que si je fais ça dans la rue, je pense qu'on sera à 1 pour 1000. Là, on est à au moins, on va dire 5% peut-être de la salle. Mais donc Google, ça veut dire est présent dans non seulement sur les ordinateurs, dans le navigateur web. Mais aussi dans les téléphones. Google est toujours de plus en plus présent, en tout cas pour l'instant aux États-Unis, avec sa solution Google Wallet, dans les systèmes de paiement à distance. Donc typiquement, voilà ce qu'on voit se développer. Donc Apple fait exactement la même chose aujourd'hui. Et il est probable que d'ici 2 à 3 ans, on vienne vous dire, on a déjà, nous, des cartes à paiement... c'est sans contact, excusez-moi, avec une puce RFID, vous savez, les petites cartes bleues avec une puce RFID dedans, on va approcher la carte pour aller payer sa baguette de pain. Ça existe depuis maintenant des années au Japon et aux États-Unis. Les solutions aujourd'hui de paiement sans contact sont en train d'être trustées par Google et Apple, ce qui veut dire évidemment qu'ils vont savoir ce que vous achetez, y compris en dehors d'Internet. Donc là, on commence à se dire, commence à être un peu flippant. Mais c'est pas fini. Google, vous le savez sans doute pour la plupart d'entre vous, fait un gros labo de recherche en intelligence artificielle, et Google commence à sortir, donc la Google Cars devrait être officiellement disponible sur le marché, je crois, en 2017. Il y a les tests qui sont faits aujourd'hui aux États-Unis et qui se passent plutôt bien, vu qu'elles roulent aujourd'hui en Californie. A priori, elles n'ont pas causé d'accident, je crois qu'il y en a eu un, mais qui était dû à l'autre conducteur plutôt qu'à la voiture. Je vous rappelle qu'au départ, c'était une boîte qui faisait un moteur de recherche. Aujourd'hui, ils vous vendent des bagnoles. Ils vont faire aussi, évidemment, donc là, vous avez c'est Sergey Brin, un des deux fondateurs de Google, qui porte des Google Glass, donc les Google Glass qui filment en permanence ce que vous faites et qui sont capables de vous donner de l'information sur ce que vous êtes en train de voir. J'ai vu que la SNCF, donc là ça commence à arriver en France, la SNCF utilise des Google Glass à une expérimentation pour lire vos billets SNCF, etc. Et puis, ben, on peut imaginer à moyen terme que vous aurez carrément plus besoin de sortir votre billet. Les Google Glass vous regarderont, identifieront votre visage, puisque Google, avec Google Images et bien d'autres, sont capables de faire de la reconnaissance d'image, en veux-tu, en voilà. Bon, ben, on saura si oui ou non vous êtes habilité à monter dans ce train ou pas. Ça commence à être de plus en plus tendu pour nous. Google est investi aujourd'hui le champ de la médecine. Vous avez Google Doctor, par exemple, qui est en expérimentation aujourd'hui aux États-Unis. Donc, c'est en bêta sur un petit nombre de personnes. Un petit nombre de personnes, c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Hein. On parle quand même au niveau mondial de pas mal de monde. Vous dites, voilà, j'ai mal au genou. Et ben Google, au lieu de vous renvoyer uniquement des résultats, vous dit, est-ce que vous voulez qu'on vous mette en relation avec quelqu'un qui pourra vous dire pourquoi est-ce que vous avez mal au genou, etc. Google s'intéresse à votre santé. Google veut détecter, donc ça c'est un article que j'ai tiré de Numérama pas plus tard qu'hier, qui a été publié hier. Google veut détecter le cancer en plaçant des nanoparticules dans le corps, donc vous gobez votre petite pilule, la petite pilule se dissout dans votre estomac, envoie des nanorobots qui vont détecter si oui ou non vous avez des possibilités de cancer. Là aussi, ils espèrent une mise sur le marché, je crois, d'ici 5 ans. Bon... Si on veut, Google s'intéresse aussi beaucoup à l'ADN. Google est aujourd'hui le principal actionnaire dans beaucoup de rachats de sociétés qui ont eu lieu ces dernières années autour justement de l'ADN. Pourquoi ? Parce que Google sait traiter des bases de données immenses et que c'est pas complètement idiot pour eux de se dire, ben là où il y a de la donnée, on peut traiter et on peut analyser de la donnée. Ben l'ADN, ça peut être une bonne piste pour nous. Ok, même pas peur. Hop, ça passe ou pas. Ah, dommage, j'avais une super vidéo à vous montrer, mais elle passera pas. Google est en train de racheter, enfin a racheté Boston Dynamics. Boston Dynamics est une société qui vendait et qui continue à vendre des robots au département de la défense américaine. Et c'est dommage qu'on voit pas l'image parce que le robot ressemble ni plus ni moins au robot de Terminator. Une fois qu'il est qu'on lui a enlevé les vêtements, etc., c'est vraiment le Terminator de premier film joué par Schwarzenegger. Et c'est carrément flippant. Et ce qui nous amène à nous poser la question. Est-ce que Google n'est pas le Skynet de 2028 ? Donc Skynet, pour ceux qui ne connaîtraient pas, était dans Terminator, l'intelligence artificielle qui, à un moment donné, se rebelle contre les humains et décide de tout simplement que les humains si on veut protéger l'humain, il vaut mieux l'enfermer et lui dire ce qu'il faut faire, parce que les humains sont mal conçus et l'intelligence artificielle, c'est mieux que les humains ce qu'il faut en faire. Et donc, c'est le pitch du film Terminator où il faut éliminer les humains vu que ce sont des erreurs de la nature. Je dis pas que Google en est là aujourd'hui, mais Google a les moyens de devenir ce type de société. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas Google. Le terme aujourd'hui employé notamment dans la presse, c'est plutôt GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon, auxquels on est plusieurs associations du libre à vouloir ajouter le M de Microsoft, parce que Microsoft reste extrêmement présent. Microsoft, c'est pas que Windows, Microsoft, c'est aussi Skype, c'est aussi d'autres logiciels qui sont... Et c'est évidemment Office 365 pour travailler en ligne, etc., pour les entreprises. Ces entreprises, aujourd'hui, dominent complètement les capitalisations boursières mondiales. Pour la plupart des gens, si je vais interroger des gens dans la rue, la plupart, si je leur pose la question, à votre avis, qui est aujourd'hui la première capitalisation boursière mondiale, la plupart du temps, on va répondre General Motors, HSBC, ExxonMobil, des pétroliers, des industriels, etc. Faux. La première capitalisation boursière, c'est Apple. En termes de capitaux propres, Apple, en plus, a 112 milliards de dollars d'argent en caisse qu'ils peuvent dépenser comme ils l'entendent. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft représentent pas forcément ça représente quand même plusieurs centaines de milliers d'emplois, mais ça, c'est uniquement les emplois directs. Vous imaginez bien derrière qu'il faut des gens pour produire les téléphones, qu'il va falloir des gens pour produire les systèmes pour les voitures, il va falloir, etc. Donc, ces entreprises-là sont en train de devenir les premiers employeurs au niveau mondial. C'est très bien, sauf que ces entreprises-là sont aussi en train de devenir des groupes qui vont contrôler petit à petit nos vies numériques, en tout cas si on les laisse faire. Alors, quels sont les dangers ? Le premier danger, selon nous, c'est un frein à l'innovation. C'est quoi le frein à l'innovation ? C'est que si on prend, par exemple, une entreprise, une start-up qui créera un produit, ça devient extrêmement difficile pour elle, aujourd'hui, de résister à des offres d'achat de Google, Facebook ou autre. Je vais prendre un exemple, c'est le cas de WhatsApp. Alors WhatsApp, c'est pas forcément une application qu'en France on connaît beaucoup, parce que les SMS sont gratuits. Mais si vous allez à l'étranger, si vous allez aux États-Unis ou ailleurs, c'est une des applications les plus utilisées par les gens, c'est-à-dire une petite application qui permet de faire du chat en temps réel via son téléphone. WhatsApp, c'est plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Et WhatsApp, au départ, c'était une boîte avec 55, avant de se faire racheter, WhatsApp comptait uniquement 55 employés. C'était donc une entreprise extrêmement innovante, toute petite, plutôt efficace, on va dire, qui faisait du service propriétaire, on est d'accord, mais qui fonctionnait bien comme ça. Facebook a racheté WhatsApp pour 22 milliards de dollars. Comment vous voulez que des entreprises continuent à innover et se disent on va créer des produits innovants qu'on mettra à disposition du public si derrière elles sont potentiellement rachetables à coût de 22 milliards de dollars. Donc ça pose une vraie question selon nous sur comment est-ce qu'on peut continuer à créer de l'innovation, comment est-ce que nous, après développeurs de logiciels libres, on peut être innovant face à des entreprises qui sont capables de dégainer des carnets de chèques qui sont juste les plus gros de la planète. Deuxième danger, c'est celui de l'espionnage industriel. Là aussi, ces entreprises, vous l'avez peut-être noté, donc Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, sont toutes les cinq des entreprises américaines. Je vais pas faire de l'anti-américanisme primaire, mais là aussi, on aurait peut-être aimé avoir des entreprises ou européennes, ou sud-américaines, ou autres. C'est pas le cas. Et selon nous, ça pose un vrai problème. Alors, là, je pourrais ressortir, évidemment, la carte Edward Snowden et les révélations qu'il a fait récemment. Mais l'exemple que je voulais prendre aujourd'hui, c'est celui d'Angela Merkel, chancelière allemande, qui apprend que son téléphone est mis sur écoute par la NSA, donc c'est partie des révélations d'Edward Snowden. Et on imagine bien que c'est pas Angela Merkel qui va aller poser des bombes. A priori, elle est pas terroriste. Donc, la raison pour laquelle le téléphone d'Angela Merkel était sur écoute, c'est clairement parce que ça permet de faire de l'espionnage industriel. Et donc, autre question que soumet aujourd'hui, je relèverai les copies à la fin peut-être, est-ce que la crise qu'on vit aujourd'hui en Europe, globalement sur le monde, mais aujourd'hui en Europe, est-ce qu'elle n'est pas partiellement due au fait que les écoutes des Américains sont faites par le biais de ces entreprises, puisque je rappelle que le Patriot Act américain, c'est-à-dire suite aux attentats du 11 septembre, le Patriot Act est une loi qui oblige les entreprises états-uniennes à donner les informations au gouvernement américain s'il leur demande. Donc, tout simplement, Angela Merkel utilise un téléphone avec du Android, du iOS pour l'iPhone ou du Windows Phone, si jamais elle avait un téléphone avec Windows Phone dedans, ces trois entreprises-là sont obligées de dire quels sont les SMS reçus, envoyés, etc. Donc on peut travailler soit sur les opérateurs téléphoniques, soit sur le système d'exploitation du téléphone. Donc ça aussi, ça pose un vrai problème qui aujourd'hui, quasiment tout le monde avait entendu qu'Angela Merkel était sur écoute, mais j'ai pas entendu parler des suites et j'ai pas vu spécialement, je crois pas qu'il y ait de procès en cours et j'ai un peu l'impression qu'on s'est aplati devant ce type de questions. Troisième danger, c'est la dépendance, petit à petit, à ces outils. Donc là, de façon beaucoup plus concrète, moi je vois au quotidien Je travaille beaucoup avec des associations. Ces associations mettent de plus en plus leurs données dans le cloud, qui appartient essentiellement justement celui de Google, que ça soit celui d'Apple ou autre, et donc vont stocker leurs photos, leurs listes de discussion, leurs fichiers dans Google Drive, Dropbox ou autre. Sans se poser la question du à un moment donné, quand je vais devoir quitter Google, vers quoi je pourrais me retourner. Évidemment, bon, là, je m'adresse à un public de libristes, c'est quand même bien connu, mais tout ça est fait pas vraiment à base de code source. Il me semble pas que l'algorithme du moteur de recherche de Google soit disponible en ligne. Il me semble pas que le code de Google Drive ou d'Office 365 soit disponible en ligne. Tout ça fait que petit à petit, lorsqu'ils vont imposer leur solution, ils vont avoir tout intérêt à vouloir refermer le web. Là où nous, on essaye de lutter, au contraire, pour le garder ouvert et sur des standards ouverts. Google est pas du tout la pire société de ce point de vue-là. Google participe relativement activement aux projets libres et open source. Mais soyons clairs, quand Google organise le Google Summer of Code, c'est-à-dire le plus grand programme de stage mondial, il me semble d'ailleurs, ils font travailler des stagiaires ou des étudiants sur plein de projets libres, c'est une très bonne chose. D'un côté, eux, ça leur permet un petit peu de faire du tort à la concurrence, et d'autre part, ça leur permet de repérer les meilleurs cerveaux pour pouvoir éventuellement les embaucher derrière. Parmi les 55 000 employés de Google, vous pouvez être sûr que vous avez déjà une grosse partie des meilleurs cerveaux de la planète qui travaillent là-bas. Et c'est pas tellement parce que pour des questions de vénalité, mais forcément, quand on vous propose un chèque à plusieurs millions de dollars, c'est assez difficile de répondre non et de dire « Non, je vais rester bosser en France, dans le milieu universitaire, payer 1 800 euros net. » Et ça devient forcément compliqué. Ça pose évidemment le problème du web qui devient de plus en plus centralisé. Alors là, je vous refais pas la conférence de Benjamin Bayard sur Minitel 2.0, mais l'idée, elle est toujours là et toujours présente aujourd'hui, voire de plus en plus. C'est comment est-ce que aujourd'hui on peut éviter de toucher à ces entreprises-là. Lorsque vous allez sur Internet, j'allume un ordinateur, déjà, bon, alors ici, il y a beaucoup de gens qui vont être sur des systèmes libres, mais si on s'adresse à un autre public, ils vont allumer un ordinateur qui va avoir ou Windows ou Mac, pour la plupart, ou une tablette qui va être sous Android, puis ils vont aller sur Internet, et lorsqu'ils vont surfer sur des sites, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, même s'ils vont sur le site qui n'appartient pas à Google ou à Microsoft, donc ils vont aller, je sais pas, sur le site du Monde, ou Rue 89, ou Le Figaro, ou peu importe, ils vont quand même être en contact, systématiquement, à un moment donné, avec des bribes de code qui appartiennent à Google, ou qui appartiennent à Microsoft. Donc ça va ou à d'autres. Il va y avoir le bouton plus, le bouton j'aime de Facebook. Lorsque vous allez sur un site et que vous voyez un bouton j'aime, Facebook récupère de l'information sur vous et sait que vous êtes venu sur cette page. Tout ça crée un web de plus en plus centralisé et une espèce de super Minitel dans lesquels les gens sont obligés finalement de passer. On a créé des autoroutes tellement larges. Des autoroutes de l'information tellement larges qu'elles sont aujourd'hui complètement trustées par ces entreprises. Le dernier point, et il sera question de ça aussi plus tard dans la soirée, je crois, il y a d'autres conférences autour de ce thème-là, c'est évidemment votre vie privée qui est mise à mal. C'est un sujet un peu vaste, et je ne m'étendrai pas aujourd'hui là-dessus, mais c'est comment est-ce que... finalement, à quoi servent toutes ces données qui sont collectées petit à petit sur vous? Prises indépendamment, c'est toujours la même chose. On peut dire, ah oui, mais moi, j'ai rien à cacher. Le problème, c'est que c'est lorsqu'on va agglomérer petit à petit ces données, lorsqu'on sait que voilà, vous avez fait telle recherche à tel jour, etc., ou que vous habitez à tel endroit, etc., tout ça permet de tracer un profil extrêmement précis de vous. Et ces données, à un moment donné, peuvent être exploitées, évidemment, soit pour de la publicité, soit demain pour des choses peut-être un petit peu plus lourdes et un petit peu plus complexes. Par exemple, si vous faites une recherche sur, cancer du côlon, Ben Google va savoir avant même votre médecin que potentiellement vous craignez d'avoir un cancer du côlon. Et puis, ben peut-être que l'info sera envoyée à votre assureur et que lorsque vous allez vouloir acheter une maison, demander un crédit, etc., votre assureur va dire « Attendez, nous avons des éléments qui nous permettent de penser que potentiellement vous êtes malade. » Et c'est aujourd'hui pas le cas, mais c'est la société vers laquelle on va. Et aujourd'hui, je vois personne qui dit « Non, non, il faudrait pas qu'on aille vers ça. » Donc, on en arrive à comment est-ce qu'on peut dégafamiser Internet. Attends, je suis large, tranquille. Comment est-ce qu'on peut dégafamiser Internet pour ne pas qu'Internet devienne demain Google Internet ou Facebook Internet et que on garde non seulement une neutralité des réseaux, mais aussi une neutralité des services et le contrôle sur sa vie privée, numérique, puisque, encore une fois, aujourd'hui, votre vie, elle est de plus en plus numérique. Votre télé, aujourd'hui, elle arrive par une box. Votre musique, elle est probablement numérique. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent encore des cassettes, voire des CD dans des... ou des vinyles, il en reste encore quelques-uns. Mais la musique, aujourd'hui, on a souvent tendance à l'écouter en ligne ou à la transférer sous forme de fichiers sur des baladeurs. Les e-books participent aussi à ça, donc on va aller s'acheter ou commander des livres électroniques. Votre téléphone, évidemment, est aujourd'hui numérique, à moins que vous ayez encore mon vieux téléphone à cadran, mais ça commence à devenir un peu rare. Et en fait, tout ça remplit en permanence des bases de données, et on peut remercier Edward Snowden d'avoir montré que ces bases de données, elles étaient exploitées. Nous, potentiellement, on le savait, mais ça a été la révélation au grand public qui a pu être faite. Attention, non seulement ces entreprises récoltent des données, mais le gouvernement américain et les services gouvernementaux américains peuvent accéder à ces données et peuvent les exploiter. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est, nous, posé la question. Donc, pour situer un peu Framasoft, c'était français et mathématiques, hein, Fra et Ma. On est une asso issue de l'éducation nationale, éducation populaire. On n'est pas informaticien, contrairement à pas mal de gens dans la pièce. C'est-à-dire que, sauf exception et quelques rares exceptions dans l'association, on n'est pas codeur, on n'est pas développeur, on n'est pas admin-sys. Par contre, on voit bien que les valeurs portées par le logiciel libre, les valeurs et l'éthique portées par ce mouvement du logiciel libre, qui est un mouvement non seulement éthique, mais aussi un mouvement social, voire un mouvement politique, nous intéressait. Dans le milieu éducatif, c'était comment est-ce qu'on fait pour partager du savoir avec les autres, et non pas que ce savoir soit fermé et approprié. Donc on s'est dit, ben, effectivement, il y a un truc qui cloche avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on a bien vu que Google était... C'était pas celle-là, je voulais vous montrer, c'est pas bien grave. Donc, Google, c'est 60 milliards de chiffre d'affaires, voilà, 3 milliards de bénéfices, plus de 50 000 employés. Alors, en 2008, ils avaient 2 millions de serveurs. Aujourd'hui, on peut globalement estimer qu'on peut faire facilement du x2. Voilà. En face, Framasoft, c'était 158 000 euros de recettes en dons. Youpi, mais 10 000 euros de pertes. Malheureusement, l'argent, ça se dépense et ça se dépense vite. 2 salariés, une trentaine de membres et 17 serveurs. Donc, on s'est dit, bon, clairement, on va pas pouvoir aller frontalement face à ça. On est 38 000 fois, et là, je parle que de Google, hein, si je fais par rapport aux 4 autres, on est vraiment, vraiment mal. On est donc 38 000 fois plus petit, donc ça fait un pixel là sur cette belle image que vous voyez là-dessus. Et on s'est dit, ouais, c'est pas grave, on y va quand même. On a peur de rien. Et donc, on a sorti une campagne qui s'appelle « Dégooglisons Internet ». Sachant que il s'agissait pas, je fais le lien du coup avec la conf précédente qui était sur sme.org, un hébergeur alternatif et associatif, qui pour moi et du coup que je connaissais pas, mais qui est un excellent exemple de finalement de ce qu'on essaye de mettre en avant dans nos solutions. C'était de dire voilà, Google et les autres sont présents de partout, donc on va citer évidemment des produits de Google, donc les Google Forms, évidemment la recherche, mais on peut citer aussi Skype ou Avaaz, qui occupent, voilà, qui sont des services propriétaires dont on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment sont stockées les données, comment est-ce qu'elles sont exploitées, et surtout, quelles sont la pérennité, l'interopérabilité qui peut exister entre ces services. Et on a parodié évidemment la carte d'Astérix, parce qu'elle parle à tout le monde, hein. C'est pas tant pour dire faut faire un truc franco-français, pas du tout, hein. Je pense que cette carte-là est au moins au niveau national connue, voire ça déborde les frontières nationales. Et l'idée, c'était de dire, ben, comment est-ce qu'on peut résister, voilà, aux dangers que je vous citais tout à l'heure, donc les camps romains de privatum, espionum, centralisum et fermetum. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en face? Cette campagne, elle a trois objectifs. Alors là, je pourrais me faire taper dessus, peut-être, par les éditions, enfin, par les ayants droit du Derzo et Goscinny, parce que autant là-bas, c'était de la parodie, bon, le gnou gnou gnou, c'est la potion magique, évidemment, qu'on va utiliser. Cette campagne, elle a trois objectifs, et ça tombe bien, du coup, je suis content de vous en parler, parce que les gens croient qu'on veut le remplacer, pour ceux qui ont entendu parler de la campagne, ils se disent, ouais, ça va, Framasoft, ils ont bien les chevilles comme ça, ils veulent remplacer Google. Non, non, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est expliquer aux gens, justement, le danger que représente Google Internet à terme. Donc, c'est sur le site de la campagne, on a pris le temps d'expliquer justement quels sont les enjeux, les dangers et les solutions qu'on essaye de mettre en place. Le deuxième objectif, c'est de démontrer. Alors, pour démontrer, je vais revenir un petit peu dessus tout à l'heure, mais on met en place des outils libres, évidemment, qu'on ne développe pas nous, sauf exception, puisque on va se baser sur des logiciels, des solutions de logiciels libres existantes. On les met en place et on dit aux gens, voilà, évidemment, vous pouvez installer, tout à l'heure, il était question de Diaspora, vous pouvez installer vous-même Diaspora pour vous faire votre propre réseau social libre. Seulement, nous, Framasoft, on est, comme je vous dis, on n'est pas développeur, on est plutôt porte d'entrée du logiciel libre francophone. Donc, ça veut dire qu'on s'adresse à des gens qui vont pas savoir installer Diaspora. Ils vont pas être capables aujourd'hui, en tout cas simplement, d'aller se dire, bon, je vais me prendre un hébergement chez OVH, chez Gandhi ou autre, et puis je vais installer Diaspora dessus, ou ce qui pour nous serait le rêve, c'est mettre ça sur leur propre ordinateur, éventuellement dans leur cuisine, pour gérer derrière les services de l'association, du syndicat ou de l'entreprise d'ailleurs, qui peuvent avoir à gérer. Donc, on essaye de mettre en place des services pour montrer à quoi ressemblent les logiciels libres qu'on essaye de promouvoir. Encore une fois, c'est pas nous qui les faisons. Ces logiciels. Et donc le troisième objectif, c'est d'essaimer. Et donc essaimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pas nous faire du service freemium ou machin. On cherche pas à avoir 150 000 inscrits sur notre instance de Diaspora, sur notre réseau social qu'on a mis en place le mois dernier. L'idée, c'est plutôt de dire, bah voilà, comment est-ce que nous, qui sommes pas informaticiens, on a mis en place notre instance de Diaspora. Notre instance de Wise Mapping, qui est un outil de gestion de cartes heuristiques, donc pour faire des cartes mentales, vous savez, des petites bulles comme ça pour organiser ses idées. Comment est-ce qu'on a fait pour installer Framapad, qui est basé sur un logiciel libre qui s'appelle Etherpad, et qui vise en fait à promouvoir la rédaction collaborative, un petit peu comme Google Doc peut le faire, où on va pouvoir travailler à plusieurs sur un même document. Ça, c'est extrêmement utilisé, par exemple, notamment par des associations. Donc, on fait du tutoriel. Puisque encore une fois, on n'est pas informaticien, mais on sait quand même écrire, donc on va savoir faire des tutoriels pour dire, voilà, ce service-là, ça vous plaît, installez-le chez vous. Je reviens et j'insiste là-dessus parce que c'est la principale. C'est même pas une critique qu'on nous fait. Les gens ont l'impression qu'on est des cadors en informatique. Pas du tout. Quand je dis que, enfin moi, voilà, je sais vaguement coder en PHP, mais je saurais pas faire trois lignes de JavaScript. Je n'ai jamais fait une ligne de C++. Je suis pas admin 6. Donc on sait vaguement bidouiller, mais au sens noble du terme, on aime ça en plus. Donc, on va se casser la tête pendant des heures à essayer d'installer un Etherpad, et quand ça marche, on va prendre l'information, on va la partager avec d'autres pour que d'autres puissent installer du Etherpad derrière et bénéficier du même service que celui qu'on propose à tout le monde. Mais on fait ça vraiment avec des bouts de ficelle. Donc là, je voulais vous parler, je vais regarder le temps qui me reste, de quelques services qu'on propose. Donc par exemple Framapad, donc un outil de rédaction collaborative dont je vous parlais. Aujourd'hui on héberge environ plus de 150 000 pads. On va pas regarder en plus ce qu'il y a comme type de pad, mais les retours qu'on a quand les gens ont des demandes de support et autres, on voit bien que ce sont des écoles, des syndicats, des associations, etc., qui utilisent ce service-là en se disant, bon, finalement c'est pratique. Et au départ ils utilisent On voit bien, là, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on a lancé ce service-là. Au départ, c'était ils utilisaient sans nous le dire. Après, ils ont utilisé en nous disant « ouais, c'est vachement bien ». Et maintenant, les questions qu'ils viennent nous poser, c'est bien, mais je voudrais le mettre en place dans mon association, dans mon réseau associatif, ou dans mon école, ou dans l'université, ou etc., ou dans mon entreprise. Et là, pour nous, ça veut dire que notre démarche, finalement, elle est pas si pourrie que ça, parce que ça veut dire que petit à petit, ces gens-là vont aller télécharger du logiciel libre, l'installer, et on l'espère contribuer, non pas à Framapad, mais contribuer à Etherpad, de façon à ce que le code qui sera développé participe à tout le monde, et pas seulement, non seulement à nous, mais qu'il soit partagé par d'autres. On propose Framacalc, qui est malheureusement largement en dessous en termes de fonctionnalité de ce que pour proposer aujourd'hui Google Spreadsheet. Mais pourquoi est-ce qu'on propose un outil, même s'il n'est pas à niveau de ce que propose Google? Ben on le propose parce que on espère aussi que en montrant cet outil, en poussant les gens à dire bah créez-vous un calque, utilisez-le, etc. Ils vont se dire voilà, il va y avoir peut-être 10 000 utilisateurs. Sur ces 10 000 utilisateurs, il y aura peut-être 3 ou 4 développeurs qui vont se dire bon, il manque telle et telle fonctionnalité, bah je vais aller aider la développeuse, parce que c'est, du coup c'est une développeuse qui développe quasi seule Ethercalc, qui motorise notre site Framacalc, et qui vont se dire bon bah ok, on va aller rajouter des fonctionnalités. Donc cette démarche de sensibilisation, on sait pas si elle passera. La démarche de démonstration, elle marche plutôt pas mal. Maintenant on espère que derrière ça rapportera des contributeurs. Il y a Framabag qu'on a mis en place suite à l'arrêt de Google Reader. Donc Framabag est basé sur un logiciel qui s'appelle Wallabag, qui, je parlais de Google Reader, je pensais à Pocket en fait. C'est un site qui permet, lorsqu'on va sur on est sur Internet, avec son téléphone ou avec son ordinateur, on trouve un site qui est intéressant. On n'a pas le temps de le lire parce qu'on est dans le métro, parce qu'on va prendre des transports, je sais pas. Et ben hop, on le met entre guillemets dans Wallabag ici ou sur Framabag, et on va pouvoir le lire plus tard, y compris pourquoi pas en mode déconnecté. Framadat aussi est un outil qui est très utilisé par des associations et des entreprises. On a des retours de grands groupes dont on sait qu'ils utilisent Framadat plutôt que Doodle. Je parle pas de Google, hein, Doodle, qui permet de faire du rendez-vous, de la prise de rendez-vous en ligne. Et vous êtes en train de le rater parce que vous êtes en train de m'écouter, mais j'ai un collègue, du coup, Emeric, qui juste à côté est en train d'annoncer la nouvelle version de Framadat, qui là est accessible et qui sera mise en ligne d'ici quelques semaines, quand on aura le temps de dormir. Framanews, donc ça, c'était à la suite de l'arrêt de Google Reader. Framasphere, donc qui est un réseau social basé sur Diaspora. Alors pourquoi est-ce qu'on a retenu Diaspora plutôt que SME, enfin MySME ou d'autres, ou Movim ou d'autres réseaux sociaux? Là, on retombe sur des questions purement humaines. C'est que moi, j'ai rencontré lors des Journées du Libre à Lyon le principal contributeur francophone de Diaspora qui m'a dit ah bah tiens, ça pourrait être sympa si un jour Framasoft mettait en place un pod de Diaspora. Et on a bu des bières ensemble, et ça pardonne pas. Donc, vous savez comment nous acheter. Et du coup, voilà, on a mis en place un pod Diaspora. Donc, on a sorti, je crois, si je dis pas de bêtises, le 8 ou le 9 octobre dernier, donc ça fait un mois. On est à peu près aujourd'hui à 7000 utilisateurs actifs de Framasphere, donc qui est notre instance de Diaspora. En un mois, c'est quand même pas mal. Après, évidemment, on pousse encore les gens à installer leur propre Diaspora. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce soir, Minus Cortex? Ben, la même chose que chaque soir, Minus, on va tenter de libérer le monde. Rien que ça. N'ayons peur de rien. Vu que on a prévu un plan sur 3 ans, donc je crois pas qu'il y ait de connexion Internet, mais vous irez voir le site dégooglisonsinternet.org. Ça, c'est ce qui a déjà été fait. Ou ce qui est en cours. Donc là, je vous annonce donc que Framadat, voilà, va être mis à jour avec accès sur l'ergonomie et l'accessibilité. On a mis à jour la semaine dernière Framindmap, donc l'outil de création de cartes mentales où vous allez maintenant pouvoir stocker vos cartes mentales en ligne et les partager avec d'autres de façon collaborative. Et puis, à partir de 2015, on va mettre un système de pétitions en ligne sur lesquelles on ne récoltera pas les adresses mail pour vous pourrir de spam. On va mettre en place un équivalent de Dropbox pour que vous puissiez déposer vos fichiers éventuellement et les partager, etc. entre vous. un équivalent de WeTransfer ou de DropSend pour que vous puissiez déposer des gros fichiers sur un temps limité. Voilà, vous avez fait des photos de vacances, vous les envoyez à la famille. Le fichier fait 50 mégas, ça passe pas par mail. Qu'est-ce que je fais? Ben, parmi les solutions déjà propriétaires qui existent, ben on proposera une alternative dont le nom n'est pas encore arrêté. On l'a appelé Framadrop, mais ça peut changer d'ici là. Où voilà, vous allez pouvoir déposer des fichiers, vous choisirez. Ben voilà, je le garde pour un jour, une semaine ou un mois, de façon complètement anonyme, c'est-à-dire que le fichier est chiffré en amont. On ne sait pas ce qu'on héberge, nous. On ne veut pas le savoir. Et au bout de maximum un mois, parce qu'on ne va pas non plus héberger la planète entière, le fichier est effacé. Sur 2016, on prévoit d'autres types de services à mettre en ligne. Notamment, ce qui est attendu, c'est les services d'agenda, des services voilà, de microblogging libre, basé voilà, sur des solutions en pair à pair qui commencent à poindre le bout de leur nez. Ouvrir un site que nous on utilise déjà qui s'appelle framatube.org qui est en remplacement de YouTube, une alternative à YouTube, mais qui aujourd'hui n'est utilisée que en interne par Framasoft parce qu'on n'a pas la capacité à héberger évidemment d'autres vidéos, on n'a pas la bande passante pour ça. Par contre, ce qu'on espère, c'est que d'ici, on va dire 2 ans, on aura cette capacité non pas à héberger la planète entière, encore une fois, mais à dire aux gens qui font des vidéos sous licence libre, vous pouvez les héberger éventuellement chez nous si vous voulez, on utilise tel type de logiciel, et voilà comment est-ce qu'on a fait pour l'installer. Donc ça peut vous servir aussi pour diffuser, enfin voilà, des associations comme Toolib, je crois, ont leur propre service déjà d'hébergement de vidéos et de diffusion de vidéos, avec leurs propres partenaires, mais c'est bien si on arrive à partager nos expériences. La principale critique qu'on nous fait régulièrement, c'est « mais vous êtes en train de recentraliser le web », c'est-à-dire quitter Google pour aller chez Framasoft, absolument aucun intérêt, c'est pas une bonne chose. Voilà un exemple de tutoriel qu'on a fait pour Wise Mapping, donc notre outil de gestion de cartes mentales et de création de cartes mentales, qui a été développé par... évidemment pas du tout au sein de Framasoft. Par contre, lorsqu'on l'a mis en place, on s'est aperçu que c'était assez complexe et que ça méritait une documentation francophone de qualité, ce qu'on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. On espère que du coup, on aura d'autres personnes qui installeront Wise Mapping, qui est quand même un outil plutôt bien fichu. Pourquoi utiliser des services Framasoft plutôt que des services propriétaires, en dehors de tout le discours que je viens de vous tenir, si vous doutez encore? C'est que nous, on a co-rédigé une charte lorsqu'on était chez Mozilla, dans les locaux de Mozilla. On a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus comme sécurité. Et comme on peut pas prendre d'engagement contractuel, je vous cache pas qu'on n'a pas des avocats, on a quelques juristes heureusement, mais on n'a pas d'avocat, on n'a pas d'armée d'avocats, on reste en mode associatif. On s'est dit qu'on pouvait au moins s'engager sur une charte, et donc on a écrit une charte des services libre, éthique, décentralisé et solidaire. Donc libre, évidemment, c'est qu'on s'engage à n'utiliser que du logiciel libre. Éthique, dans le sens où on s'engage à ne pas diffuser de données personnelles, on ne revendra pas vos adresses mail, on n'ira pas fouiller dans vos comptes ce qui se passe, etc. Décentraliser, ben là c'est, on va essayer de pousser à la décentralisation et à l'auto-hébergement. Nous, on n'est pas capable de faire ce que fait SME.org, hein, clairement. On va pas gérer des comptes utilisateurs hébergés chez nous sur des serveurs pour des gens qui voudraient s'auto-héberger, qui voudraient jongler avec du FTP ou du SSH. Pas notre domaine. Par contre, on peut aider les gens à le faire et éventuellement les rediriger vers des hébergeurs associatifs. Et des services solidaires, c'est-à-dire que, et j'approche de la conclusion, ça marche pas tout seul. Je sens que vous me voyez venir avec mes gros sabots. C'est-à-dire que, évidemment, on met ça à disposition du public, mais il faut contribuer. Alors vous pouvez contribuer en donnant des sous, je vais y revenir, mais vous pouvez surtout contribuer en participant au développement des logiciels libres. Alors si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez faire de la documentation, vous pouvez faire du tutoriel, vous pouvez faire de la traduction. Il y a plein de choses qu'on peut faire, même quand on n'est pas développeur, pour aider à faire connaître et à promouvoir le logiciel libre. Donc avant tout, on essaye de pousser les gens. Voilà, si vous aimez Framadat, eh ben, essayez d'abord de l'installer, essayez de le, voilà, dans votre école, dans votre association, dans votre entreprise. Si vous y arrivez pas, ben, essayez de faire des choses solidaires, c'est-à-dire de poser la question autour de vous, pas forcément à nous, parce qu'on est, je vous l'ai dit, on est 2 salariés, 30 membres, on va pas pouvoir répondre à la France entière, évidemment. Mais par contre, le logiciel libre a prouvé qu'il était possible de s'entraider et de créer des choses ensemble. Est-ce qu'on va y arriver? Ben non. Enfin, clairement, je l'annonce, on va pas pouvoir nous remplacer Google. Par contre, il est possible que si on reçoit suffisamment d'aide, c'est pas tant Framasoft là qui est important, mais si on reprend cette démarche en reconstruisant chacun quelque part son mini ces applications libres, éthiques, décentralisées, solidaires, un petit peu dans son coin, exactement comme le faisait SME.org dans la conf d'avant, on puisse contrebalancer ce pouvoir de gravité, un petit peu de poids que nous imposent aujourd'hui Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft. Pour contrebalancer ce pouvoir, en fait, on peut le faire si on s'y met tous un petit peu. C'est-à-dire si on commence tous à utiliser notre petit potager bio face aux multinationales de l'agroalimentaire, ça a des chances de fonctionner comme ça. Ça peut peut-être fonctionner comme ça. Par contre, si on disait non, il faut remplacer l'industrie par du 100% bio, du jour au lendemain, ça ne marchera pas. Par contre, si chacun fait son petit jardin dans son coin, globalement, on a une chance d'y arriver. Et pour nous aider à faire pousser les légumes dans notre petit jardin bio, pour qu'on aille porter ça et ce message-là auprès du grand public, je vous encourage à donner des sous, hein, pour la recherche, c'est important. C'est-à-dire qu'on a une campagne qui va s'étaler là sur 3 ans. Je vous ai même pas parlé de 2017, parce que très honnêtement, enfin, je vais pas vous mentir, on sait même pas si on sera toujours là en 2017. Mais où on voudrait pouvoir proposer des listes de diffusion, on voudrait pouvoir proposer de l'hébergement d'images, etc. Même si on le propose pas à 100 000 personnes, mais à 10 000 personnes, eh ben, ce sera déjà ça de prix, et pousser ces gens-là à dire, oh là, attends, toi, tu commences à héberger, non plus 200 images, mais 2000 images, tu pourrais peut-être installer ton propre service d'hébergement d'images, en suivant la procédure qu'on a inscrite ici. Donc ça va prendre du temps. Voilà, moi j'ai un peu l'impression qu'on s'est lancé à l'assaut de l'Himalaya en tongs, mais avec du logiciel libre, donc elles sont bien fourrées les tongs, et on verra si on y arrive. C'est un peu prétentieux, mais c'est aussi très fun, très honnêtement. C'est plutôt rigolo, donc. On est bien conscient que voilà, il y a un côté un petit peu m'as-tu vu prétentieux, mais ça nous permet aujourd'hui de faire finalement cette campagne, elle marche plutôt pas mal, et ça permet de faire parler des dangers de Google dans les médias, ce qui n'était pas forcément le cas, et ce sera ma conclusion parce que je crois qu'il est l'heure, il reste 3 minutes. Ce sur quoi je voudrais conclure, c'est que tout comme Hollywood a été un véhicule pendant 60 ans et encore aujourd'hui de l'American Way of Life, et a profondément influé sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui, la société de consommation, le fait de voir dans les films les gens qui ont des voitures, qui fument des cigarettes, qui vivent comme ça dans une famille de tel type, etc. Tout ça influence largement la société. Aujourd'hui, on est en train de vivre un Hollywood sous stéroïdes, et ce Hollywood sous stéroïdes, c'est le réseau Internet en général, c'est-à-dire pas seulement celui auquel vous accédez lorsque vous ouvrez votre navigateur, qui, je l'espère, est libre, mais c'est aussi celui qui se passe quand vous allumez votre téléphone, des objets connectés de partout, lorsque vous allumez votre GPS et que c'est Waze, votre application de GPS, qui appartient à Google. Tout ça fait que, globalement, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft sont en train d'influer profondément sur la société de demain, pas seulement au niveau numérique, mais aussi en termes de culture, de mode de pensée, de mode de consommation et de mode de société. Et que si on veut que non seulement Internet reste libre, mais si vous voulez rester libre dans votre vie de demain, c'est bien d'essayer de contrebalancer ça. C'est pas mal comme conclusion. Hein, c'est pas vendu. Merci. Et j'ai peut-être le temps de prendre une question, et au pire, vous avez un stand Framasoft vous nous trouverez au milieu des autres stands, et on est là aujourd'hui et demain pour d'autres questions. Je vais prendre une question. Ouais. Je répéterai la question peut-être pour tout à l'heure.
Ouais. Non, non. J'ai oublié un peu de citer la liste des services que Google a lancé, a promu et a abandonné en cours de route.
Ouais. Oui, tout à fait. Ils ont abandonné. Donc la question, c'est, on n'a pas parlé des services que Google a lancés puis abandonnés. Non, on n'en parle pas, mais ça, enfin, pour nous, c'est la preuve aussi que Google fonctionne vraiment en mode agile. Google est, enfin, pour moi, est potentiellement dangereux à l'avenir parce qu'ils sont hyper intelligents. Non seulement parce qu'ils ont les meilleurs cerveaux de la planète aujourd'hui, mais aussi parce que ils sont capables de tester des services, de mettre des milliards pour tester des services, et puis de se dire, bah non, aujourd'hui ça marche pas. Mais attends, Google Wave ou Google Reader pourrait ressortir demain si potentiellement ils voient que ça peut rapporter du pognon. C'est juste que c'était pas suffisamment rentable pour eux. Ils se sont dit, bah non, on va pas, voilà, on a tant de développeurs sur Google Reader, ça nous rapporte tant, c'est pas forcément intéressant, et ça nous permet pas de collecter des données plus que ce qu'on est capable de collecter par le crawling du web en général. Oui. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure en parlant des CDN, donc c'est-à-dire l'hébergement de jQuery. Donc la question, c'est dans les autres services, il y a aussi. Oui, mais c'est, ça s'appelle OpenFont, mais ça reste du service Google. Et je disais que quand les développeurs étaient feignants et faisaient appel, par exemple, quand on veut mettre des polices de caractères particulières sur des sites web, plutôt que de les installer sur notre site et de faire le code HTML nous-mêmes, donc non seulement d'héberger les fichiers, mais de faire le code HTML qui va bien pour afficher les polices sur notre site, il y a une facilité qui est de dire, bah, je vais les charger chez Google et elles s'afficheront sur mon site. Mais encore une fois, ce sont des appels dans les bases de données et sur les serveurs de Google. Une dernière question, et je m'en vais après, promis. Alors, sur le financement, je vais essayer de faire très court. Notre financement est à plus de 80% par des dons. Les 20% qui restent, c'est la vente de goodies. Quand vous achetez des t-shirts en ligne, voilà, sur enventelibre.org, ben ça nous rapporte un peu de sous. Et des prestations qu'on peut faire à droite à gauche. Par exemple, on a mis en place le Etherpad pour CESAMAT, qui est une association que la plupart d'entre vous doivent connaître, donc qui travaille aussi dans le libre pour l'éducation autour d'une communauté de profs de maths. Plutôt que de l'installer eux, ils nous ont demandé à nous de le mettre en place, vu qu'on savait le faire, et ils nous ont donné de l'argent pour ça. On reçoit pas de subventions, on reçoit pas d'argent, évidemment, de grosses sociétés qui voudraient nous pousser dans telle ou telle direction. On est 100% indépendant. Par contre, clairement, je veux juste être clair sur un truc, c'est pas les serveurs qui coûtent cher. Aujourd'hui, les serveurs, ça coûte « peanuts ». On a un cluster d'une quinzaine, on avait des machines qui étaient des Kim Sufi chez OVH qu'on est en train aujourd'hui de migrer dans un cluster de machines virtuelles, parce que heureusement chez nous il y a des gens qui s'y connaissent, parce que là je suis en train de vous raconter un truc, je sais à peine ce que c'est, avec du Ganeti et du KVM, hein, voilà, pour ceux qui voudraient savoir. On parlera d'OpenStack un autre jour. Mais du coup, clairement, c'est pas ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est les salaires. C'est-à-dire que pour gérer ça, il faut avoir de l'admin 6 qui est capable de répondre, tiens, le service est en panne, on a du Shinken, on a des choses comme ça pour monitorer, mais ça suffit pas, il faut à un moment donné de l'humain. Et de l'humain qui soit disponible au moins 8 heures par jour, et peut-être un jour faire les 3-8, j'en sais rien, mais aujourd'hui, ce qui coûte cher, clairement, c'est mon salaire et celui de mon collègue. C'est absolument incomparable par rapport au prix de l'hébergement. Si on vous n'avez pas de salariés, je défends mon poste, hein, mais j'ai pas honte de le faire, qui répondrait au coup de fil en journée, qui irait voir les journalistes, etc. Il y a un moment donné où le bénévolat rencontre des limites, et il nous faut quelqu'un aussi pour faire de la compta, des choses comme ça, qu'on a fait Framasoft à 10 ans, on l'a fait de façon bénévole pendant maintenant plus de 10 ans, au bout d'un moment, et forcément, il faut employer, et c'est pas mal aussi, enfin, j'espère que ça vous parlera, si on dit que le logiciel libre est aussi créateur d'emplois dans le milieu associatif, sur des emplois qui sont pas des emplois précarisés, sous-payés, etc., ça peut aussi être une bonne chose. Voilà. Merci. Oui, tout à fait, le logiciel libre n'est pas gratuit, en tout cas, il faut le payer au moins une première fois, et d'une façon ou d'une autre. Je laisse la place au prochain intervenant, sinon je vais le faire taper. Merci à vous.